RMC, Willy Sagnol. Ici, c'est Willy.
Allez, bonsoir, 18h03, c'est parti pour Ici, c'est Willy jusqu'à 20h sur RMC, avec comme tous les vendredis soirs, Franck Leboeuf, François Pinet et Jean-Louis Tour. Bonsoir messieurs.
Bonsoir Willy,
salut
Willy.
Tous.
Je m'insure, je ne disais mot. Je ne pipais pas. Il y avait, on avait une petite, on peut le dire, on avait une petite conversation.
Et pendant les infos. Pendant, qui est pas très respectueux quand même.
Ah bah, attends, c'était quand même important puisqu'on parlait des réseaux sociaux, on parlait de Mark Zuckerberg qui était à l'Elysée. Et nous, on se posait la question.
En fait, moi, en tant que journaliste,
d'où vient Twitter?
En tant que journaliste. Non, pardon. Puisque vous êtes journaliste, je pose des questions et je dis, qui est Twitter? Qui a inventé Twitter? Et là, il y en a un qui m'a dit Jean-Claude et l'autre qui dit Gérard Twitter. Voilà. Le niveau de nos journalistes sur RMC, quoi.
Bah, on est marrant quand même.
C'était plutôt.
Alors, Twitter a été créé le 21 mars 2006 par Jack Dorsey, Evan Williams, Bill Stone et Noah Glass. Voilà. Ils étaient nombreux pour créer ça.
Et on peut
en 2006. Alors voilà, le début d'émission qui n'a ni queue ni tête.
Non, mais parce qu'on suivait les infos,
oui,
en fait.
Bah évidemment, on finit une conversation.
Mais ni queue ni tête. Non, mais Jean-Louis, ni queue ni tête. C'est pour moi, c'est un super. Tu vois, c'est une super perche que tu m'envoies. C'est comme la sanction de contre Neymar.
Et ben on va en parler.
Sans queue ni tête
sur nos pattes.
Et surtout, et aussi, on aura aussi Valère Germain comme invité exceptionnel.
Exactement. C'est parti, messieurs. On se mouille un peu la nuque quand même, parce que là on passe de la semaine de Coupe d'Europe au week-end de Ligue 1. Faut quand même se préparer.
Mais tu vas voir ce week-end le spectacle qu'il va y avoir, les retournements, les remontadas, vas voir ça.
Très bien, merci. C'est une émission humoristique, donc ça comprend dès maintenant.
Mais il y croit même pas. Les mecs.
Ah bah non, j'y crois pas. Tottenham l'a fait.
Tottenham l'a fait. Liverpool l'a fait parce qu'ils y ont cru. Et ben nous, ça doit être pareil. On doit y croire. Si on veut voir le spectacle, tu verras. Caen va en mettre 4 à Reims. Guingamp va en mettre 6 à je sais pas qui. Tu vas voir ce week-end.
C'est que l'auto-persuasion, c'est ça.
Et ça marche souvent.
Ouais, je crois pas trop, mais bon.
Bref. Allez, Coué.
Le week-end de Ligue 1. Oui, qui lui cru. Alors, c'est pas, Francky, qui lui cru comme ça, ça tombe, c'est magnifique.
Non, Coué.
La course à la troisième place, donc. Lyon sera à Marseille dimanche. L'attaquant de l'OM, Valère Germain, ton invité Willy, à 18h30. Dans cette lutte pour la troisième place, Saint-Etienne peut mettre la pression ce soir sur les Lyonnais en cas de victoire sur Montpellier. On sera bien sûr au stade pour l'avant-match. Puis on va débattre à 19h. Le management de Jean-Louis Gasset, le coach des Verts, est-ce le modèle à suivre? On fera ce débat avec Lionel Charbonnier et Ludovic Obraniak tout à l'heure. Mais on commence donc par Neymar. Pas sûr que ses rapports avec le foot français ne s'améliorent.
Formidable Neymar quand il joue, mais totalement exaspérant quand il joue la comédie.
Sur chaque action, t'as l'impression c'est surjoué.
Là, rejoins,
regardez Neymar. Wow, il se tord de douleur.
Regarde, il le fait encore là. C'est fatigant.
Il était déjà en tête de notre top simulation.
Voilà, il s'énerve le mec.
Ça y est, il fait un plomb.
Neymar, ça l'a rendu fou.
Il est victime de tout ça.
Ne m'appelez plus jamais.
Oui, la France l'a peut-être un peu laissé tomber Neymar. La sanction est donc tombée aujourd'hui pour son altercation, pour son coup porté aux supporters de Rennes. En montant dans la tribune, vous vous souvenez de l'image, après la finale perdue en Coupe de France, Neymar a donc écopé de 3 matchs fermes, plus 2 avec sursis, ce qu'a décidé la commission de discipline de la Fédé. On va réagir sur cette sanction et puis ensuite on élargira le débat en ajoutant le traitement parfois sur le terrain, les critiques sur son comportement, sur ses simulations ou encore les sifflets au parc la saison dernière. Le débat est le suivant, peut-il Neymar en avoir ras-le-bol du football français? Appelez-nous au 32-16 pour nous donner votre avis. Willy, déjà cette sanction, est-ce que tu la comprends?
Non. Bah, très clairement, je la comprends pas. Je la comprends pas. Qu'on foute 3 matchs fermes avec 2 matchs avec sursis, c'est ça hein, Jean-Louis, je me trompe pas?
Oui, exactement.
C'est... Moi j'ai envie de dire aux gens, alors aux personnes de la commission, je sais que c'est pas facile d'être dans des commissions, des commissions de discipline, parce que j'ai envie de leur dire, écoutez, alors il y a des barèmes qui sont mis en place, mais c'est vous les premières personnes qui devez dénoncer ces barèmes-là. Mm-hmm. Ça n'a aucun sens. On peut pas mettre 3 matchs, on va dire 5 en théorie, oui, de suspension à un mec pour une pichenette, parce que c'est une pichenette, c'est pas un coup de poing, c'est pas un coup de tête, pour un mec qui s'est fait insulter par un mec qui n'a pas que insulté Neymar, mais qui a insulté Buffon, qui a insulté Verratti, qui a insulté Kurzawa. Non mais il faut arrêter. À un moment donné, on dit, tu vois,
répondre à l'insulte par la violence, c'est répréhensible quand même.
Bah j'en sais rien. Actuellement en France, t'as quand même beaucoup.
Non, que dans un
t'as
sens,
quand même.
Hein.
Attends.
Si un joueur insulte un spectateur et que le spectateur le frappe le joueur, je suis pas sûr qu'il soit
répréhensible. Si, c'est pareil.
Ah ouais,
bien sûr.
Non. Il va prendre quoi?
Vis-à-vis de la loi, c'est pareil.
Il va prendre 3 matchs le spectateur.
Alors, il y a aujourd'hui, on a quand même des mouvements sociaux en France depuis maintenant plusieurs mois. Il y a quand même, on le voit, on l'entend, on sait qu'il y a quand même une bonne partie qui cautionne la violence, Jean-Louis. Donc tu peux pas dire, on peut pas cautionner la violence.
Ah bah si, aux yeux de la loi.
Attention,
je suis désolé.
Il y a violence.
Une insulte par de
non mais Jean-Louis, il y a violence et violence. Une pichenette, je suis désolé.
Oui,
non,
ça c'est une autre question. Voilà. S'ils considèrent que c'est une violence, ils sont obligés de sanctionner.
Voilà, un mec. Qui voit Buffon, je sais plus exactement ce qu'il a dit à Buffon, qui voit Verratti, qui le traite de raciste. Alors pourquoi Buffon. Déjà il dit ça? Qui dit je sais pas quoi à Kurzawa et qui aussi dit qui s'en prend à Neymar. Les mecs, ils viennent de passer 120 minutes sur un terrain à courir dans tous les sens, à faire une séance de pénalty. Oui. Donc en termes d'émotion, tu montes, tu descends, Ils ont perdu. Tu leur demandes de monter des marches. Normalement, à des perdants, tu leur demandes pas de monter des marches. Tu ne devrais pas. Ils montent des marches et le mec, il se fait insulter par un mec qui sort nulle part. Tu peux rire, tu peux éventuellement lui faire un sourire un peu moqueur, mais tu ne peux pas faire ça. Ce mec-là, autant moi je veux voir Neymar sur un terrain, et pourtant Dieu sait que j'ai pas été tendre avec lui cette année, mais autant je veux le voir sur un terrain parce que ça peut être un génie, et c'est aussi pour ça qu'on va dans les stades de foot, autant ce mec-là, qui a proféré ses insultes, je ne veux plus le voir dans un stade de foot. Lui, c'est quoi son excuse à lui? Lui, Neymar, moi je cherche l'excuse à Neymar en disant, entre les émotions, la fatigue, les insultes, je l'excuse en partie.
On sent que c'est prémédité.
Mais le mec qui est dans ses tribunes, qui lui n'a pas bougé pendant 120 minutes, même 130 minutes, et qui voit passer des mecs un par un qui les insultent, elle est où son excuse? Elle est où la circonstance atténuante? J'ai essayé de lire ce qu'il a essayé de parler, ce petit jeune dans un journal, je sais plus lequel, mais ça avait aucun sens.
Dans l'équipe.
Ça avait aucun sens ce qu'il disait. Il disait mais moi c'était pas grand chose, et puis il demandait pardon en même temps. Mais faut arrêter. Stop, ce mec-là n'a rien à faire dans un stade de foot. Aujourd'hui, pourquoi on se gargarise aujourd'hui des spectacles en Angleterre? Pourquoi on se gargarise des spectacles en Allemagne? Mais t'as pas des scènes comme ça.
Oui.
Tu as. D'abord, la plupart du temps, les supporters, ils encouragent leur équipe.
C'est déjà la base.
Il y a du chambrage.
Oui. D'abord, dans d'autres pays où les taux de remplissage sont quasiment à 100%, c'est d'abord les supporters, ils encouragent leur équipe avant de penser à insulter l'adversaire. Ouais. Mais là, ce qu'a fait ce mec, pour moi, c'est incompréhensible, c'est anormal et ça ne doit pas se passer dans ce cas de figure dans une tribune au Stade de France.
A priori, il ne sera pas sanctionné, hein.
Tu sais ce qu'on va faire un jour, il va falloir peut-être proposer quelque chose et de dire, tu vois, par exemple à une équipe de foot, tu vois, tous les matins vous allez aller vous mettre devant le même magasin. Et pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tous les matins, vous allez insulter le mec qui tient le magasin. Non, mais l'insulter, et le jour, tu verras, le propriétaire du magasin, il va rien dire. Enfin, en théorie, il dirait rien. Mais imagine qu'un jour, ce propriétaire de magasin, que le matin, soit le matin même, sa femme l'ait quitté, soit que son gamin, il a un gros problème, soit son père, ou soit il a des problèmes pour payer les impôts, et qu'il n'a pas l'état d'esprit, tu vois, pour endurer ça, et après t'as des réactions, et ben c'est pareil.
Ok.
Stop à un moment donné.
Francky.
Alors je peux retourner sur ce terrain, mais j'ai essayé d'aller sur un autre terrain tout d'abord, où je dis, Mbappé, il a pris 3 matchs.
3 matchs, ouais.
Pour un attentat au genou sur Da Silva. Là, on considère qu'il a fait Neymar a fait une pichenette sur la figure du gars, hein. Donc il y avait pas risque physique, rien du tout. Et il prend 5 matchs en théorie. Donc moi je voulais savoir
3 matchs plus 2, ouais.
3 matchs plus 2. Donc je voulais savoir où était l'équilibre, parce qu'on parle de football, on parle de sport au départ, hein. Donc même si Mbappé on sait très bien qu'il est pas c'est pas un tueur né, c'est pas le mec qui veut blesser, mais là il perd les pédales et si ça marche pas bien pour Da Silva, s'il a le pied bien ancré, il a plus de genou, il a plus de cheville et il prend 3 matchs. Et Neymar, parce que je pense que c'est Neymar, on lui met bien ce qu'il faut. Après, François,
vas-y.
À un moment donné, il va falloir considérer en France et dans les pays latins que dire des gros mots à quelqu'un, ça fait mal et c'est pas normal. Hier, je prends l'exemple, et on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, Instagram, Facebook, Zuckerberg. Il va falloir que ça soit sanctionnable à un moment donné, parce que moi,
mais c'est sanctionnable. Non, une insulte est sanctionnable.
Oui. Bah, en tout cas, c'est pas si c'est
dans la loi, c'est sanctionnable normalement.
Eh ben, on le voit pas beaucoup.
Si Verratti avait porté plainte contre le supporter, il aurait eu gain de cause.
On a autorisé.
Non, mais t'imagines s'il avait porté plainte? Mais qu'est-ce qui serait pris dans la gueule, Verratti, par exemple? Qu'est-ce qui serait pris dans la gueule? Il aurait osé porter plainte contre un supporter. T'imagines, pour un joueur de foot?
Au moment où on parle, on sait qu'il y a, puisqu'on parle de Twitter, tout à l'heure on parlait de Twitter, il y a Twitter, qu'en ce moment, à moi en disant quelque chose contre un supporter, je suis en train de me faire insulter sur Twitter. Alors je le regarde pas, je m'en fous, j'ai pas Twitter. Mais on le sait. Quand hier, j'avais annoncé la victoire de Chelsea contre, de qualification de Chelsea et de Valence, il y a des supporters sur mon Instagram d'Arsenal qui m'ont envoyé un texto pour m'insulter. En me disant, tocard, disparir, va crever, truc comme ça.
Oui.
On banalise l'insulte. Je pense qu'il y a 30 ans, t'aurais dit ça à quelqu'un, mais tu prends une grosse tarte dans la gueule. À un moment donné, il va falloir, tout ça s'arrête. Ça suffit.
Eh ben, toi, quand t'es un mec qui t'insulte sur Twitter, toi, avec ton téléphone, il peut pas lui mettre une gifle en retour.
Non, mais regarde Cantona qui a mis un coup de pied. Il a pris combien? Il a pris six mois.
Oui.
Six mois. Hein. On était dans un autre truc parce que là, on ne voyait jamais ça. Donc, on savait pas. On sait pas quoi faire parce qu'on ne sait plus quoi faire parce qu'on a autorisé et banalisé l'insulte partout.
Mmh.
En public, sur Internet, à la télévision, tout ce
c'est
qu'on
vrai,
veut.
C'est vrai.
Donc, à un moment donné, à force que ça arrête, pour Neymar, je trouve que c'est exagéré. Je trouve que c'est même à la limite scandaleux. Et c'est vrai que ce joueur, bon, c'est vrai qu'on peut en avoir ras-le-bol de lui. Peut-être qu'on en aura ras-le-bol avant que lui ait ras-le-bol de la France. Mais, c'est vrai qu'on fait tout pour qu'il se casse.
Et en plus, il y a une chose, c'est qu'il faut rajouter sur les commissions qui prennent les décisions. Alors, pour certaines commissions, il faut savoir qu'elles sont constituées de personnes.
Toi, t'étais à la Fédé, hein.
Oui.
De quoi tu
parles. Non, mais c'est celle de la Fédération. Mais je vais parler de certaines commissions, parce que parfois il y a la Fédération, parfois la Ligue, parfois l'éthique, parfois ci, parfois ça. Moi, ça m'est arrivé aussi d'être sanctionné. Il faut savoir une chose quand même, que la plupart du temps, dans 95 ou 99% des cas, les gens qui sanctionnent, ce sont des gens qui n'ont jamais, mais jamais foutu un bout d'orteil sur un terrain de foot.
Oui. C'est quand même allé au stade une fois. Ils ont quand même vu un
match. J'en sais rien. Je sais même pas. Parce que je pense que même pour eux, le foot, c'est fait par des footballeurs débiles.
Le règlement, effectivement, le règlement disciplinaire, la qualification qui a dû être retenue dans ce cas-là, c'est tentative de coup envers le public. Donc, il parle de cette tentative, l'action par laquelle un joueur essaie de porter atteinte de manière particulièrement agressive à l'intégrité physique d'une personne. C'est la définition, dans les textes. Et en dehors de la rencontre, c'est 5 matchs de suspension ferme. Mais, donc là, s'ils ont mis 3 matchs plus 2, c'est sans doute parce qu'ils ont retenu le côté
provocateur.
C'est le pas du barème.
Mais voilà. Justement, moi c'est ça qui me dérange. C'est que si à un moment donné tu te réfères à un barème ou si tu prends une décision, tu lui mets ces 5 matchs, tu lui mets pas de sursis.
Ah si, parce que t'as quand même...
T'as une marge de manœuvre.
C'est quoi alors?
La circonstance atténuante, la provocation.
Non, mais, provocation, c'est aller 2 matchs avec sursis, c'est à la louche. Tu vois, c'est à la louche. On parle de comportement violent. C'est quoi? Un coup de poing, une gifle, une tente nette, un regard.
Mais la justice, elle est la même. La justice, elle est la même dans le civil entre un mec qui va voler, un mec qui va violer, un mec qui va tuer. Quelquefois, il y a des proportionnels qui sont quand même délirantes. Donc on se dit, est-ce que le mec qui a tué, qui prend 3 ans, alors que le mec qui l'a volé, il en prend 4? Tu dis, mais c'est quoi?
Après, il a fait appel.
Donc ça peut.
Quand on parle de justice, quand on parle de tribunaux, Franck, ce sont leur métier, c'est leur métier.
Oui, mais oui.
Ces gens-là,
oui, je sais bien.
De juger,
oui.
et que là on parle de commissions personnes qui n'ont jamais foutu un pied sur un terrain de foot.
Oui, donc on n'a même pas le droit, en principe, de juger. Mais le truc, c'est que ce que je te dis, c'est que tu ne peux pas accepter, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, la loi du talion, c'est-à-dire
œil pour œil, dent pour dent.
Après, tu ne peux pas. Mais je pense que si j'accepterais la commission cette sanction de Neymar si ce mec-là avait une sanction. Aussi une interdiction de rentrer dans n'importe quel stade pendant 10 ans.
Tu veux vraiment utiliser cet événement pour marquer les gens? Et tu sais ce que tu fais, Neymar? Plutôt que de faire ça, tu lui fous comme des TIG que le mec il y a le voir après, des jeunes en difficulté pour leur parler foot pour ouais, le et ça aura plus de valeur mais ça
Willy, il y a sans doute des problèmes dans les commissions dans la constitution des commissions etc mais l'argument ils n'ont jamais joué au foot
mais je les ai vus
Jean-Louis fini juste l'argument de ils ont jamais joué au foot
des mecs qui dorment dans des commissions
oui ça c'est embêtant mais c'est sûr mais
on a des députés qui dorment
l'argument ils n'ont jamais joué au foot ça tient pas dans le civil les gens ont pas volé les juges ont pas volé et ils jugent ils ont pas tué des gens ils jugent des tueurs
tout à fait
non mais un juge il fait ça tous les jours oui, pas mais... comme un membre de commission qui fait ça une fois toutes les 4 semaines de 6 à 8
c'est pas parce qu'il n'est pas allé sur le terrain qu'il n'est pas capable de juger une décision en rapport avec le sport en rapport avec le foot c'est ça que je veux dire
il n'y a pas de circonstances atténuantes pour Neymar c'est ce dont on a l'impression
si justement super
et on va suivre quand même l'appel qui va être intéressant voilà, parce que le PSG a fait appel et on va voir parce qu'il y a quand même ce match où il sera suspendu, c'est le trophée des champions et là pour le coup le football français c'est important ce trophée des champions, ça sera en Chine et forcément un match sans Neymar en Chine c'est pas terrible pour le football français.
Attention,
il faudra suivre quand même en appel la décision de la commission.
Attention, c'est pas la commission de la Ligue. Donc il n'y a pas de business normalement.
C'est la Ligue.
Oui. Est-ce que le fait que le trophée champion ne se joue pas en France, on peut ne pas calculer la
compétition
française
les deux dernières journées plus le trophée des champions.
Alors le PSG contre la Fédé, il y a eu un deuxième épisode aujourd'hui, ça c'était le premier donc avec la sanction pour Neymar. L'autre épisode ça vient de Noël Le Graët, ancien boss Willy à la Fédé. Noël Le Graët
ne dit pas du mal de Noël.
Il a dit les choses tout seul. Donc Noël Le Graët selon
en plus c'est pas socialiste. Donc attention.
Selon nos confrères du c'était dans le Parisien ce matin qui ils font remonter une phrase du patron de la Fédé qui a critiqué la position du PSG, seul club français favorable à la réforme de la Ligue des Champions, et Le Graët dit Paris est tout seul, il ne peut pas jouer en France et ne pas de temps en temps suivre ce que décident la Fédé et la Ligue. Et puis je lui conseillerais surtout, et d'abord, de bâtir une équipe pour passer les huitièmes de Ligue des Champions.
Petit tacle par derrière.
Gros tacle de Noël Le Graët envers le PSG. Ça n'a pas plu à Thomas Tuchel, entraîneur du PSG, aujourd'hui en conférence de presse.
C'est pas professionnel, mais à l'autre côté, je suis pas surpris parce que la fédération... J'ai beaucoup des occasions quand j'attendis les mêmes attitudes contre moi, contre mon staff et contre le club. Pour ça, je suis pas surpris, mais pour moi, c'est pas professionnel de dire ça.
Voilà.
Il a tout compris, Tuchel. En France, il n'y a qu'un truc qui marche. La victimisation. Vas-y, ça, on oubliera que t'as fait une saison comme t'as fait, là. Non, mais c'est pas à l'entraîneur de réagir. C'est au président.
Mais il parle jamais.
C'est à l'institution.
Il parle jamais.
Mais Jean-Louis, il doit dire, je réponds pas. Il a pas parlé de...
Il y a personne qui répond.
Eh ben, c'est pas à lui de répondre. C'est à l'institution de répondre.
Alors, tu as raison.
L'institution est...
Lui, il est là pour parler du terrain. Il n'est pas parlé pour réagir à Noël Le Graët. Je cautionne pas, et qu'on soit bien d'accord, Jean-Louis, je cautionne pas ce qu'a dit le président Le Graët. Je pense que c'est pas bien. Faut pas dire des choses comme ça.
Mais je te jure, moi, j'ai joué à Chelsea pendant 5 ans. J'ai pas eu une fois le président qui a parlé dans la presse, qui a fait des conférences de presse ou qui a parlé de quoi que ce soit. La fois où on a joué, nous étions un match de Boxing Day, donc 26 décembre, on était 11 étrangers à démarrer le match. Il y avait pas un anglais. Ça a pété dans tous les sens. J'ai jamais vu le président prendre c'est l'entraîneur qui prend ses décisions, je l'accepte. Heureusement, on a gagné. Donc ça s'est bien passé.
Ouais, mais Franck,
puisque Ruud Gullit était entraîneur, manager général, je me rappelle pas avoir vu le président d'Arsenal prendre la parole quand Arsène Wenger
Ouais, mais les gars, faites pas de raccourcis.
S'il est manager général, oui, il a le droit.
Attention, raccourci. En Angleterre, souvent, les entraîneurs sont les managers. Donc ce sont les patrons.
C'est ce que je viens de dire.
Voilà. Ce sont les patrons du sportif.
Si Tuchel n'est pas manager, oui, Tuchel est simple entraîneur,
donc Tuchel n'a pas la responsabilité sportive.
Ouais. Et sinon, sur le fond, sur ce qu'il dit, en gros, il dit, j'ai bien compris qu'à la Fédé, ils aimaient pas le PSG. C'est ce qu'il nous dit là, à l'instant. Ça, c'est de la victimisation ou c'est une réalité?
Alors que la Fédération n'aime pas le PSG. Donc moi, quand j'étais encore à la Fédération, il y avait déjà le Qatar qui était arrivé, qui avait repris le PSG. Et je peux vous dire que les gens se plaignaient à la fédération.
De pas avoir de billets?
Non. Parce que il jugeait que l'ambiance à la fédération était beaucoup trop pro PSG. Alors, peut-être que ça a changé depuis 3-4 ans, je ne sais pas. Mais c'est comme, ça, parce que la plupart des gens qui travaillent à la fédération sont des gens de Paris. Et les gens de Paris sont généralement pro PSG. Donc, quand il dit, moi aussi des trucs sur, moi, le staff, eh ben, on veut savoir, Thomas. Là, c'est la stratégie de la victimisation. Ouais. Qui donne à rien. Il donne pas de bonbons ou il donne pas de d'infos. Il dit simplement, voilà. Non, bah, dis-moi ce qu'on t'a dit.
Non, mais Noël Le Graët, Noël Le Graët a pas à faire cette réflexion. On lui demande pas son avis sur le sportif. Qui disent quelque chose sur le PSG, sur ce qu'il veut, au niveau de l'administratif, au niveau de même politique, tout ça. Mais au niveau sportif, tu fais pas une remarque quand t'es président de la Fédé, que t'as été président de club, que tu sais comment c'est difficile de gérer un club et d'avoir des résultats. C'est surtout pas à lui de faire cette remarque.
Bon voilà, après il l'a fait d'une petite crêpe partie. Hein. Je me rappelle quand même.
Il y avait un peu trop de pâtes. Voilà.
Avec les joueuses de l'équipe de France féminine, une petite crêpe partie, c'était limite un truc privé. Hein. Mais bon après il a tenu ses propos quand même.
Ah ouais, mais Lyon, hein, PSG aussi.
Eh bah, écoute,
filles
tu
aussi,
sais quoi, c'est le président champion du monde.
Oui.
Il est comme les joueurs champions du monde. Il est comme l'entraîneur champion du monde. Et ben on leur pardonne. Voilà.
Ah d'accord, donc voilà. Là, on se prépare au cas où la Fédé rappelle, au cas où Noël rappelle, et voilà, on
Noël rappelle très régulièrement, simplement pour prendre des nouvelles, et ça me fait plaisir.
Très bien.
Et je dis juste, non, je l'ai dit, ce qu'il a dit, c'est très maladroit.
Oui.
Ça ne se fait pas.
Non, mais je rigole.
Mais moi j'aime pas la victimisation toujours,
quand
c'est un truc qui me fait les poils hérissent.
Quand est-ce qu'on fait une crêpe partie?
Bah, quand tu nous invites.
Très bien.
Fais la pâte et puis nous on vient avec la pâte à tartiner.
Bon, très bien. On peut mettre d'autres choses que la pâte à tartiner.
Moi, citron, sucre, moi j'adore.
Ah, très bien. C'est intéressant.
On revient dans un instant. Tu fais la pâte, François, tu fais quoi?
Ah non, moi je la mange.
Dans un instant, notre invité, l'attaquant de l'OM, Valère Germain dans Ici c'est Willy, à tout de suite.
RMC, Willy Sagnol. C'est Willy.
Allez, 18h30, les amis, de retour dans Ici c'est Willy avec Franck Leboeuf, François Pinet, Jean-Louis Tour. Bon Jean-Louis.
Oui.
C'est l'heure de mon coup de cœur.
Oui, coup de cœur pour un joueur qui va être avec nous dans une seconde, Valère Germain.
Exactement.
L'attaquant de l'Olympique de Marseille. Mais dans 15 minutes, vous le savez, c'est le rendez-vous, 18h45, c'est le journal moyen.
Ah.
Et cette semaine, c'est avec Pierre Amiche. Salut Pierre.
Bonjour les amis. Eh ouais, c'est notre compétition préférée qui est de retour. L'Europa League, forcément, hein,
oui.
Avec tous ces clubs moisis, ces joueurs qu'on connaît pas. Bon, pas en demi-finale. Mais là, on a assisté à une séance.
Tu vas pas te fâcher avec les fans de l'Europa League, là?
Jamais. Moi, je me fâche avec personne.
Oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ouais.
T'es gaffe, il y a Chelsea, quand même.
Mec le plus cool du monde.
Bon.
En tout cas, ça a pas empêché notre fine équipe de briller, notamment sur une séance de tir au but de l'enfer, puisqu'on a vu environ 70 conneries que j'ai toutes compilées bien méchantes. Donc, voilà, rendez-vous dans, allez, 15 minutes.
Parfait, à tout à l'heure. Francky, elle en est où la carrière, là? D'acteur, on en est où? Il y a des petites... Ça tourne un peu là?
Alors j'ai fait une lecture ce matin, je tourne lundi-mardi Commissaire Magellan.
Ah, je savais que je tombais bien.
Ah, ouais, ouais. Et puis le 6-7 juin, je joue à un entraîneur de patinage artistique.
Est-ce qu'il met jamais les pieds sur la glace?
T'as une scène un peu osée ou pas?
Pas du tout.
Non,
pas du tout. Là, non, c'est plutôt chaud là. C'est plutôt chaud. Il y a eu un meurtre et tout ça, et on me
sort le pistolet.
C'est toi
le pistolet que t'as mis sur Facebook là. Est-ce qu'il revient un jour, ce pistolet?
Une très belle photo.
C'était pour une séance photo il y a quelques années. Et puis il y a une tournée qui démarre à partir du 5 août pour la pièce L'Arnaqueur.
Voilà. Mais c'est important de prendre des nouvelles du gentil acteur, voilà, qui nous plaît tout autant que Franck. Qui analyse de foot.
Ça écoute, marche bien.
Bah oui, ça marche bien.
Ça marche très bien pour lui.
Bah ça marche mieux le théâtre que le foot en fait.
Bah non, le foot, oh, tu cartonnes.
Tu te régales ici.
Par contre, les audiences et tout.
Tu te régales ici.
Moi, j'adore. Je vis mes passions à fond et très bien.
Et la vie est belle.
C'est vrai que je l'ai jamais dit, mais je vous adore en fait.
Ah bah.
Vous êtes des vrais chambreurs, mais je vous adore.
On va plutôt ce qu'on te met, c'est beau quand
même. Ouais, mais non, mais qui aime bien châtier bien.
Bravo le coup d'érision.
Non, mais on a le droit.
Allez. T'as le droit de dire la vérité surtout.
Voilà. Tu dis ça, mais tu viens d'arriver et tu verras. Au bout de 6 ans, tu fais plus attention en fait.
Allez, après ce coup de cœur de Franck, il y a un autre coup de cœur, celui de Willy.
RMC.
Moi je parle juste de ça, je veux voir la transition, parce que la transition, c'est ce qui est beau dans le football.
Willy se régale.
Alors on l'a mis dans ton coup de cœur, parce que tu aimes bien ce joueur. Hein.
Oui.
L'attaquant de l'Olympique de Marseille est avec nous, on est à 2 jours de la réception de Lyon en Ligue 1, match qui pourrait être crucial dans la course à la 3e place. Valère Germain est dans Ici, c'est Willy.
Salut Valère, comment vas-tu?
Bonsoir, ça va bien, merci.
Bon, comment tu es là? avant cette dernière ligne droite. Alors on sait que vous avez bouffé pas mal de jokers, mais bon, il y a encore un mini truc à aller chercher.
7 points de retard sur l'Europe avant la réception de Lyon dimanche.
Il faut tout tenter. Et puis bon, il y a voilà, la saison a été difficile, il faut essayer de la finir le mieux possible.
Bien sûr, on se doit de gagner les 3 derniers matchs et comme vous l'avez dit, espérer un petit miracle, espérer que nos concurrents devant ne prennent pas de points ou le moins de points possible. On va regarder le match de Saint-Etienne ce soir avec attention et puis on va essayer de faire un gros match et de gagner contre Lyon dimanche pour peut-être un peu relancer la chose.
Tu sens encore une réelle mobilisation pour aller chercher ces 3 dernières victoires parce que de l'extérieur on a l'impression qu'il y a beaucoup de résignation et que même si mathématiquement c'est possible, c'est difficile de garder la foi.
Non, déjà mathématiquement c'est possible, donc tout le monde y croit, même si il y a un très faible pourcentage maintenant. Même si à la fin on n'accroche rien, mais il faut qu'on termine bien le championnat. Il faut qu'on finisse bien ces 3 derniers matchs. Même si ça va pas racheter toute la saison, mais au moins si on arrive à faire 3 belles victoires à la fin, peut-être que ça remettra un peu de baume au cœur chez les supporters, un peu plus de sourire chez tout le monde. Donc on se doit au moins pour ça de bien finir la saison.
À commencer par dimanche, match aussi de prestige face à l'Olympique Lyonnais, au Vélodrome en plus. Rien que pour ça, vous avez le devoir de tout donner.
Oui, c'est sûr que en plus je crois que le stade sera presque plein, donc on a envie de faire plaisir aux supporters. L'année passée ça a été un match compliqué contre Lyon. Ils nous avaient rattrapé et même doublé au classement sur cette deuxième partie de saison, donc c'est sûr qu'on a envie de gagner, de faire un gros match, de remettre de la qualité dans nos matchs.
Et priver Lyon de Ligue des Champions, ça peut être une motivation aussi pour vous?
Ça sent pas ce qui nous animera le plus, mais l'année passée c'est vrai que c'est eux qui nous ont mis un peu dans l'embarras et qui nous ont peut-être privé de cette troisième place, donc ouais. Voilà, en plus une fin de match un peu houleuse avec quelques accrochages, donc on se souvient de ce qui s'est passé l'année dernière et ce qu'on a le plus envie c'est de jouer, de gagner, de faire plaisir aux supporters.
Est-ce que tu penses que Valère, que les derniers matchs là de la saison, les 3 derniers matchs, on va enlever le côté est-ce que encore un petit miracle ou pas? Est-ce que tu penses que ces 3 matchs sont aussi importants pour préparer la saison prochaine, ou tu penses que quel que soit de façon les résultats des 3 prochains matchs, il y aura la trêve, il y aura les vacances et que l'année prochaine sera un nouveau projet? Est-ce que tu penses pas que quand même de bien finir la saison pourrait vraiment vous aider à bien recommencer la prochaine?
Déjà, comme je vous ai dit, je pense que ça ferait un plaisir aux supporters qu'on finisse bien la saison, parce que notre saison a été compliquée. Il y a eu de très bonnes séries, des séries très compliquées aussi. Donc, on se doit de bien finir déjà de 1, parce que mathématiquement c'est encore possible, et de 2, pour reconquérir un peu les supporters de l'OM et leur dire que même si la saison ne se termine pas comme on l'avait espéré, ben qu'on va repartir de plus belle lors de la préparation fin juin début juillet et repartir sur une belle saison.
Mais justement, Valère, tu parles des séries que vous avez faites un petit peu cette année, les séries négatives et puis les séries un peu plus positives. Comment toi tu expliques ce début de saison aussi difficile, parce que on sait que le début de saison conditionne beaucoup de choses, et Marseille, si vous aviez gagné les premiers matchs, peut-être que les choses seraient rentrées dans l'ordre assez rapidement. Mais comment tu expliques vraiment ce début de que ça soit de championnat et d'Europa League aussi catastrophique?
C'est vrai qu'en championnat on n'a pas fait un super début de saison. Après je pense que vraiment ce qui a fait tâche dans la première partie de saison, c'est le parcours en Europa League et aussi les éliminations très tôt dans les coupes nationales, parce qu'à un moment donné en championnat on n'était pas si décroché que ça, on avait fait quelques belles séries et on n'était pas si loin du podium que ça, mais ce qui nous a vraiment fait défaut, je crois que c'est les parcours dans les coupes qu'on a joué cette saison. On a pris qu'un point en Europa League alors que l'année dernière on avait fait vivre de belles émotions au public marseillais. Donc
comment tu les expliques, ces échecs?
Si je le savais, et si tout le monde le savait, on aurait corrigé ça et on aurait gommé ça depuis quelques temps et on serait pas à la place à laquelle on est aujourd'hui.
Moi, tu vois, Valère, quand j'ai regardé vos matchs de début de saison, alors bon, parfois on a la réussite, parfois on l'a pas. Tu sais aussi bien que moi que parfois une victoire peut se transformer en défaite sur des petits détails ou même des choses qu'on maîtrise pas toujours. Mais il y avait une impression, c'était que l'équipe physiquement ne tenait pas la route. C'est-à-dire que dans la répétition des efforts, vous étiez pas là. Est-ce que toi, tu penses que c'était plus un problème physique parce qu'il y avait eu entre la Coupe du Monde des mecs qui sont revenus après un recrutement peut-être un petit peu tardif ou tu penses que c'était plus psychologique? Tu penses qu'il était où le problème?
À la limite, je pense s'il y a une réponse à donner, peut-être plus psychologique parce que le staff physique n'a pas changé par rapport à l'année passée. On fait les mêmes entraînements, on s'entraîne pareil. Après l'année dernière, on était tellement dans une dynamique positive que peut-être physiquement on était mieux aussi. Ça peut s'expliquer par ça aussi. Maintenant, qu'est-ce qui a cloché cette saison, je sais pas. Peut-être il y a des matchs qu'on a fait plutôt cohérents et on perdait sur des erreurs individuelles, des erreurs qui ont été un peu répétitives cette année aussi. Donc il va falloir repartir l'année prochaine en mettant encore plus de qualité dans nos matchs, bien sûr, en gommant toutes les mauvaises petites choses qu'on a fait, parce que à chaque fois cette année, quand on a fait une petite chose, elle a payé cash et ça nous a coûté beaucoup de points.
Bon, Valère, j'ai un sujet un peu délicat parce qu'il va falloir parler un peu des choix du coach, etc., que c'est toujours difficile pour un joueur et tout, mais bon, je vais poser mes questions quand même, hein, et après tu te débrouilleras comme tu sais faire. Non, le truc c'est que sur cette deuxième partie de saison, on sent que t'es quand même beaucoup plus efficace, t'as marqué 5 buts depuis février, t'enchaînes les titularisations, on te sent beaucoup plus épanoui. Parce qu'il y a eu aussi...
Ouais, mais ça, on va pas demander à Valère de réagir à ça. On sait très bien pourquoi il est plus épanoui.
Oui, alors parce que vous jouez à deux devant, avec Balotelli, depuis son arrivée. Est-ce que c'est pas hallucinant d'avoir dû attendre aussi longtemps pour te voir jouer à deux devant? On sait que c'est là où tu donnes le meilleur de toi-même, où t'as le meilleur rendement. Alors, t'as pu dépanner seul devant, hein, même dans tes clubs précédents, mais c'est souvent quand même à deux devant que tu t'es le plus épanoui. Même toi, t'as pas trouvé un peu le temps long parfois?
Non, parce que j'aurais dû faire mieux quand j'étais seul devant, et ça je le sais. Après, peut-être que le coach n'a pas essayé avant parce qu'il n'y avait pas forcément un autre attaquant
Avec Mitroglou, c'est plus compliqué qu'avec Balotelli, en fait.
Non, pas forcément, c'est pas ce que je dis, mais peut-être que Mitro, au moins, on méritait pas forcément de jouer tous les deux devant, alors que ouais. Mario, quand il est arrivé, il a marqué de suite, donc fallait le faire jouer. Mario, c'était sûr, parce qu'il faisait que marquer. Et à un moment donné, quand Dimitri ou Flo étaient peut-être un peu moins bien, il s'est dit que pourquoi pas tenter, alors que c'est vrai que moi et Mitro, à un moment donné, on n'était pas en grande forme non plus, donc c'était peut-être pas facile de mettre deux attaquants qui sont pas forcément dans une bonne période.
Pourtant, Valère, quand on regarde, on va pas s'arrêter aux performances, on va s'arrêter au profil. Pourtant, quand tu regardes Mitroglou, Germain, moi je pense que vous aviez beaucoup. Il y avait la possibilité d'avoir beaucoup de complémentarité entre vous. Et moi, ce que j'ai regretté, c'est que, tu sais, un attaquant, quand il en manque de confiance, si tu le mets sur le banc, tu c'est pas comme ça que tu vas lui redonner de la confiance. Et moi, je me suis dit, à un moment donné, et peut-être en début de saison, quand on voyait la difficulté ou quand on voyait le retour un peu difficile de Payet et de Thauvin après l'été, je me suis dit pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas insisté un petit peu plus sur ce duo devant. Un duo, ça doit se créer, on doit prendre du temps pour travailler la complémentarité. Et j'ai eu l'impression qu'il y a eu un ou deux petits essais vraiment très légers, mais que même Rudy Garcia n'y croyait pas. Alors que moi, de l'extérieur, je me suis dit, pourtant, il y avait la possibilité que ça marche sur les deux. Est-ce que tu as un regret, un petit regret, peut-être que ça n'a pas été essayé sur une période un petit peu plus longue?
C'est très difficile de répondre à cette question, mais c'est vrai que le coach, même avant l'OM, les clubs où il a entraîné, il a rarement joué avec deux attaquants. Et voilà, c'est un coach qui joue rarement avec deux attaquants. Maintenant, j'ai eu la chance, moi, quand Mario est arrivé, qu'il y a eu un match contre Bordeaux justement où il y avait pas mal d'absents, on a dû jouer à deux attaquants et ça s'était plutôt bien passé avec Clinton. Et à partir de ce moment-là, le coach s'est dit que pourquoi pas, ça pouvait être la solution et la composition pour faire gagner l'équipe. Et à partir de là, on avait vécu une très belle série. Donc voilà, des regrets. Non, j'en ai pas forcément. Maintenant, c'est l'histoire de ma saison à l'OM et puis j'espère que ça repartira mieux surtout l'année prochaine.
Bah alors parlons de ces derniers mois justement et de cette association avec Balotelli qui fonctionne bien. Comment tu qualifierais votre relation? J'ai envie de dire de manière un peu schématique, toi tu fais les appels, lui il reste.
Faut être clair. Après c'est pas Valère qui va nous le dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un qui court et un qui court pas. Il y en a un qui court pour l'autre. Après On n'est pas souvent comme ça dans les duos, non? Pas forcément.
Ah ouais.
Quand tu regardes Lacazette, Aubameyang, par exemple, Arsenal, c'est les deux qui travaillent.
Bon, après, toi, Valère, ça te va bien comme ça?
Ouais, mais moi, on a des qualités qui se complètent. Mario est quelqu'un qui reste plus dans l'axe et qui fixe les défenses. Moi, j'aime bien revenir défendre, aller sur les côtés, faire des appels. Et voilà, lui, il aime bien être à la finition des actions. Maintenant, je pense qu'un bon duo ne se juge pas forcément au nombre de passes effectuées entre les joueurs, mais plutôt en fonction des déplacements l'un vis-à-vis de l'autre. Et sur ça, je pense que c'est plutôt pas mal, oui.
Très bien. L'année prochaine, tu es toujours à Marseille?
Oui. J'ai un contrat 2021. Moi, je me sens bien ici, surtout ces quelques derniers mois où personnellement c'est mieux. Donc, bien sûr, je me sens bien. Je suis ici. Après, maintenant, dans le football, vous savez, tout va tellement très vite que voilà. Mais moi, je me sens très bien. J'ai envie de rester ici.
Toi, qui es de l'intérieur, parce que nous de l'extérieur, on a un petit peu de mal à lire le projet. Le projet club, parce que le projet club, c'est celui qui fait que sur la durée, le club réussit ou pas. Est-ce que toi, t'espères ou tu penses que, ou est-ce qu'il va y avoir beaucoup de mouvements cet été à l'Olympique de Marseille? Est-ce que t'as envie de voir du sang frais aussi qui arrive? Ou est-ce que tu penses qu'avec les mêmes joueurs, avec une bonne coupure, des bonnes vacances, une bonne préparation, vous pouvez repartir comme c'était l'an passé? Quel est l'état d'esprit actuellement un peu à côté Marseille?
Bah écoutez, après ce sera le travail des dirigeants, du coach, de décider. Maintenant, je pense que quand même le groupe et l'effectif de l'Olympique de Marseille comprend pas mal de qualité. Certes, on reste sur une saison moyenne, mais l'année passée, on avait fait une superbe saison avec plus ou moins le même groupe.
Exactement, oui.
Donc, je pense que voilà, beaucoup de joueurs dans l'effectif n'ont pas fait une saison extraordinaire. Et je pense que si on part en vacances, qu'on récupère bien pendant les vacances et qu'on revient avec de bien meilleures intentions, on fera une belle saison. Maintenant, comme dans chaque club, c'est sûr qu'il faudra un peu de nouveautés, mais ça comme dans tous les clubs. Mais je pense qu'il y a beaucoup de qualités, c'est juste qu'il faut qu'on fasse beaucoup mieux.
Valère, merci beaucoup. Comme d'habitude, merci pour ta disponibilité.
Merci à vous.
C'est toujours un plaisir, puis c'est toujours intéressant ce qu'il dit.
Ouais, exactement.
C'est gentil. Merci
Valère Germain. On remercie l'autre
bon courage,
Germain,
Valère.
Florent,
merci
notre correspondant à Marseille, qui a permis la connexion. À bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Et on revient dans un instant dans Ici, c'est Willy, avec le journal moyen, comme tous les soirs à 18h45. À tout de suite. Intéressant ce qu'il dit Valère Germain sur le positionnement, sur le fait de jouer à deux devant et que...
Mais Valère, quand il parle, c'est toujours intéressant.
Ah non, c'est vrai.
Il fait partie de ces joueurs qui ont une analyse sur le jeu. Bon, après, il y a certaines choses qu'il peut pas dire,
voilà.
Forcément.
Par exemple, la Coupe d'Europe, il dit on y croit, etc.
C'est normal, voilà. mais sur le jeu en lui-même, sur le ressenti d'un joueur, c'est un mec que j'aime bien avoir.
Et surtout pour bien.
Pourquoi il n'a pas été associé plutôt à un deuxième attaquant et tout? Il dit c'est aussi
ma
faute.
Comme on a parlé, tu vois, là, c'est... Alors Mitroglou, on a dit que c'était une truffe, on a tout dit. Non, mais le pauvre, il en a pris plein la gueule. Mais moi, je suis persuadé que s'ils avaient fait cette doublette Mitroglou-Germain, peut-être sur du plus long terme...
Oui, c'était fait sur des bouts de match.
C'était fait que sur des bouts de match, on leur a pas laissé trop. Parce que je pense qu'il y avait de la complémentarité. Alors c'est sûr qu'il y avait... Mitroglou, il est passé à côté de son passage Marseille, mais il y avait des trucs à faire quand même.
Si vous êtes arrivé en cours de route, très bonne interview à l'instant donc de Valère Germain que vous pouvez retrouver sur le podcast d'ici. C'est Willy, à tout de suite.
RMC, Willy Sagnol. Ici, c'est Willy.
Allez, 19h48, toujours dans Ici, c'est Willy avec Franck Leboeuf, François Pinet, Jean-Louis Tour. Jean-Louis, après 19h, on va parler de Saint-Etienne et de Jean-Louis Gasset.
Oui, et de son management, de sa façon de faire. Est-ce que c'est un modèle à suivre? On fera ce débat avec Lionel Charbonnier qui a préparé une minute charbot parce que ça bouge au niveau des gardiens du PSG.
C'est ici, c'est Willy ou c'est ici, c'est Geoffroy Guichard?
Ah oui, c'est vrai que c'est très vert ici.
Alors écoute, j'ai quand même mis un point d'honneur à ne pas exagérer.
Ah bah dis donc.
Cette année, d'accord. Par rapport à Saint-Etienne. Je trouve pas qu'on ait exagéré.
Non, c'est vrai, mais là, bon.
Enfin, le décor, il est quand même.
Mais là, on est obligé, la dynamique.
Le décor, il est un peu vert.
Ah, bien sûr, c'est vert, oui. Le décor sur RMC Sport News à la télé, oui, il est un peu vert, c'est vrai.
D'ailleurs, une bagarre Lyon-Saint-Etienne, tu dois faire preuve un peu de neutralité.
Mais même les soirées d'Europa League, notre décor de studio, il fallait vert. Et on l'a fait vert.
Les gens le voient pas.
C'est vrai.
Bon, bref, moi, je le vois, ça, c'est important.
Tout ça n'est plus intéressant, là. Ça fait 20 secondes que c'est devenu inintéressant.
Ah, parce que
c'était très intéressant avant.
Mais parce que lui, il est supporter du PSG, donc dès qu'on parle des verts, il s'en fout. Voilà.
Non, comme c'est vraiment pas intéressant. Allez, le journal moyen tout de suite avec Pierre Amiche.
Et oui, au menu du journal moyen, le savoir-faire RMC, c'est les jeux du cirque chez nous, des pains et des dingueries. Hurlements et géographie, retour sur la soirée d'Europa League de rêve, même si ça manque de villes inconnues. Vous écoutez RMC, c'est le 32e journal moyen de l'histoire d'ici c'est Willy.
En direct de la rédaction de RMC Sport, le journal moyen d'ici c'est Willy.
Et tout de suite, place à la Coupe d'Europe de football. Eh oui, quatre clubs anglais, on est obligé de respecter. Hier soir, on a eu une très très belle attaque d'after. Souvent, on dit que dans le sport de ballon, le plus important, c'est les 15 premières secondes. Et eh ben, en télé et en radio, c'est pareil. Le plus important, c'est l'attaque, c'est les 15 premières secondes.
Il arrive dans 2 secondes. Mais celui-là, je peux vous le dire, que vous allez tous vous en souvenir. Et lui aussi. Jingle Julien Lens. Bon bah non. Voilà. Ils m'ont fracassé mon effet. Notre régie dort.
Merci.
Minutes, on en a perdu une.
Merci. Merci à la régie.
Alors notera la belle solidarité de l'équipe de l'After avec des potes comme ça, t'as pas besoin d'ennemis, Fred Hermel qui hurle merci, merci, il est tellement content, meilleur moment de sa soirée. Le problème c'est que je suis une petite fouine, alors je suis allé chercher ce fameux jingle, ouais c'est vrai, c'est de la famille des Mustélidés d'ailleurs, parce qu'avant le match de cette semaine, Julien Laurence, notre correspondant en Angleterre, s'était un petit peu enflammé, tout petit peu.
Pour finir, je vous assure que si pour ma première saison dans l'After et à RMC, j'ai 2 finales anglo-anglaises en Ligue des Champions, j'invite tout le monde au resto. J'invite tout le monde au resto, j'invite les auditeurs, j'invite tout le monde.
Il l'a dit quand, il l'a dit il y a plusieurs semaines.
Il faut dire, s'il y a une finale 100% anglaise, tout vous m'invitez pendant un an au resto.
Je signe 10 ans.
Pourquoi lui il invite? Pourquoi donc, il est puni alors qu'il y a que
lui,
les anglais?
J'ai fait un rapide calcul
vois,
quand même, Jean-Louis.
Toi, il est généreux ce garçon.
Ah, c'est un grand cœur. J'ai fait quand même un rapide calcul. Il a bossé pendant 10 mois. Ça va lui coûter environ 400 000 euros. Donc on peut lui dire merci Julien.
Merci Julien.
Maison, voiture, gamin, il a tout revendu.
Il demande à 2-3 anciens joueurs de financer ça et puis c'est bon.
Il envoie un
Willy. Et
voilà, pardon.
On mise pas à perte, faut pas déconner non plus.
Bon, hier, je vous l'ai dit, on a eu une séance de tir au but de rêve, hein, dans le match entre Chelsea et Francfort. Le problème, c'est que Luigi Collange, lui, il commentait plus vraiment le match, il commentait un film Marvel. Ça, c'est un peu dommage.
Énorme match de la part de Martin Hinteregger. Le héros, c'est de soi! Mais le héros a aussi des failles! Le héros peut aussi trembler! Le héros peut aussi voir un autre héros sur sa trajectoire!
Bon, moi, j'aimerais pas trop qu'il raconte des histoires à mes gosses, quand même. Parce que là, le héros, il a dit, ah ouais, l'autre héros, que c'était le héros que par, bon, je suis complètement perdu, quoi. J'ai complètement lâché l'affaire. Le problème, c'est que je suis pas le seul à être perdu. Oui, ça devait vraiment être très, très fou, hein. Parce que, je sais pas, moi, j'étais sur un reportage sur les mangoustes, mais sur le même arrêt, Gilbert Bribois nous lâche une petite ineptie mathématique.
Non.
Au KLM ment.
Enfin, de prendre son avance, c'est parti! Oh, c'est en plein milieu!
3-2! 3-2 et voilà, on revient à égalité dans cette
séance. La fameuse égalité 3-2.
Ouais. Et on la connaissait plus trop celle-là.
Il fume.
C'est la fin de saison. Il a beaucoup donné, Gilbert. Tu vois, c'est comme les prolongations dans un match. Tu vois, là, il a un peu de fatigue. Il manque de lucidité.
Je pense qu'il a besoin d'un petit voyage en Afrique.
Il a peut-être besoin de vacances, non,
la soirée
on sait pas.
Longue aussi, on a le droit de se tromper.
Ah oui,
il va à tout le monde. Bon, l'égalité 3-2, c'est rare. C'est voilà, c'est comme match nul pour qui, voilà, c'est un peu ces trucs-là un peu. Bon, mais pourquoi pas?
Présentez-vous. Qui je suis? Je suis un monsieur.
Parce qu'au terme de la séance victoire de Chelsea, est-ce que j'ai trouvé fou, c'est la petite phrase de Sarri après le match, assez ballsy quoi.
There is no preparation for penalties.
Il n'y a pas de préparation pour les séances de tir au but. Parce que vous pouvez très bien tirer sur le terrain d'entraînement. Mais en match, la pression est différente. Il faut faire preuve de personnalité, de caractère. Donc je pense vraiment que se préparer au tir au but est inutile.
Intéressant ce que dit en train de Chelsea, la Mauricio Sarri.
En fait, moi j'ai tiré les pénaltys, et la veille, j'avais une possibilité de tirer pénalty, j'en faisais un, qu'un seul, hein, parce qu'après ça devient, j'ai tiré là une fois à droite, donc j'ai ce que j'ai tiré à gauche, voilà, t'en fais plusieurs. J'en tirais un, et c'est vrai que si il était advenu que je manquais le...
Ça fait 6 mois qu'il essaie de la placer, celle-là.
Putain, je m'en fais.
Ton cerveau a pas accepté.
Donc, s'il était venu, j'aurais manqué. C'est mieux, c'est plus français.
Juste manqué.
Ouais, non, enfin, si j'avais manqué ce penalty, j'aurais pas tiré le lendemain. Donc voilà. Mais
tout ça pour ça.
Ouais, non, mais tout ça pour ça, parce que tu m'as coupé, c'est tout. Mais c'est vrai que Tu peux altérer ta confiance en tirant la veille.
Et surtout, t'es pas dans le même conditionnement psychologique.
Mais ça donne.
Il faut quand même répéter le geste.
Ouais, je pense que ouais, il y a quand même
un penalty, c'est un geste, ouais.
On l'a vu avec, comment il s'appelle,
c'est mettre un penalty fort dans un petit filet, c'est un geste.
En 2006, vous étiez entraîné.
De quoi tu parles?
Bah, la finale de 2006 de la Coupe du Monde.
Il essaie de faire de l'humour sur le plus grand drame de ma vie, et ça ne se fait pas.
Ça va, il y a prescription.
Monsieur
depuis.
Tour,
mais en plus, c'est connu que Trezeguet, il les mettait tous à l'entraînement la veille.
J'en sais rien, je sais pas.
Ah, t'étais pas à l'entraînement?
Si, mais moi,
le problème, quand t'étais coach, tu les faisais bosser ou pas? Ou c'était à l'aventure comme ça?
Parfois, tu organisais dans les semaines avant les matchs de Coupe de France, par exemple. Ouais, tu organisais un jour en fin de séance. Tu disais, allez, on se fait une séance pour. Parce que même toi, en tant qu'entraîneur, tu voulais voir aussi un peu ceux qui ont un peu un pied pour.
Voilà. Hier, de voir Azpilicueta, deuxième tireur de Chelsea, tirer, j'ai dit, ça va pas louper. Hein, c'est quand même extraordinaire.
Bon, après, t'as des défenseurs qui tirent très bien.
Oui, mais lui non.
Lui, son positionnement de corps, son positionnement de pied. Tu savais qui tirait là.
Son positionnement de course et de pied faisait qu'il n'y avait pas le choix.
Qui m'agace depuis un moment, c'est de voir les stars tirer en cinquième. Hier c'était Eden Hazard.
Mais c'est toujours comme ça.
Il aurait pu ne jamais tirer.
Écoute,
c'est pas toujours comme
regarde
ça.
Regarde les stars.
Ça a toujours été
les stars tirer les meilleurs joueurs
les stars,
au début justement.
Soit en premier, soit en cinquième.
Moi je tire en premier.
Oui, voilà, t'avais
la confiance. Non, c'est parce que j'ai.
Pour mettre en confiance toute l'équipe.
Bien sûr.
C'est un
risque quand même. C'est vrai qu'on a toujours vu Platini.
Alors, tout ce petit débat est très intéressant, mais on est quand même dans le journal moyen.
Oui, Lisa, bien, ça permet de le dire. Pardon. Ça fait une petite respiration.
Bon,
j'ai oublié un truc énorme hier. Je m'excuse, mais à coup de pas.
Bon.
Ouais, ça fait quelques semaines que Laurent Paganelli nous partage ses bonnes et moins bonnes vannes. Donc là, j'ai fait un petit pot pourri. Plus pourri que pot, mais bon. Notamment, la dernière en date, c'est la qualification de Liverpool et de Jürgen Klopp. Je vous laisse le petit fleurilège de Laurent Paganelli sur cette semaine.
Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais la vaisselle de bon matin?
Mais ouais, je me dis quand même, il y a bien quelque chose qui doit résister à l'Ajax. Mais non, ça élimine tout l'Ajax, c'est pas possible.
C'est excellent.
Tu vas avec ça?
Allez, Messi, tu vas en finale à la Champions League.
Là, c'est les vraies filles, c'est génial.
Et où tu vas comme ça en fumant?
Avec mon Klopp? I go to the final, to the Champions League.
Oh là là, il parle toutes les langues, il est trop fort, quoi. Ça, c'est bon, quand même. Ouais. Y a pas une petite blague, non, rien.
Non, merci, c'est dur de faire bien.
En tout cas, c'est l'enfer des réseaux sociaux, hein. C'est la course au clic et au like. Heureusement, que Christophe Dugarry a son chevalier blanc, Jean-Louis Tour, qui le défend sur Internet. Et ça, fait plaisir.
Merci, Pierre.
Je vous en prie. Avec son petit bouclier, là.
Non, je sais pas, mon Dugas, c'est ça.
Non, j'ai juste dit, arrêtez de me prendre pour sa secrétaire. Comme il est pas sur les réseaux sociaux, tout le monde m'envoie. Hey, tu diras à ton pote qu'il est bidon. T'as vu ce qu'il a dit, etc. Donc j'ai dit, je suis au courant. Merci les gars. Et voilà, c'est tout.
Ah donc c'est ton pote alors.
Mais moi aussi, ça m'arrive. Beaucoup, il y a beaucoup de gens qui me disent, tu diras Dugas quand même.
Oui, moi aussi. À un moment, j'en ai marre.
Ouais, voilà, moi aussi.
Mais sinon, je l'aime beaucoup. Comme je vous aime tous, vous êtes tous mes potes. C'est une grande famille, la Dream Team, c'est génial. On peut pas les blairer. C'est des anciens joueurs qui gagnent beaucoup trop. On peut pas les blairer. Merci Pierre.
Socialo.
Merci Francky.
Ouais, non.
Allez Francky.
Bon week-end.
Merci messieurs.
Très bonne émission encore. Ça a commencé dès 18h pendant le flash, hein, je vous le dis, donc réécoutez le podcast depuis le début. Pour le fan club de Francky qui existe, bien sûr. Foutissime ce soir.
Oui, alors on a une absence, blessure, oui. Willy Sennon n'est pas là, mais on Nario Mavouba, donc c'est pas mal. Hein.
Parfait. Ce soir, RMC Sport 1, Foutissime Week-end avec Jean-Christophe Drouet. On revient dans un instant. Le management de Jean-Louis Gasset est-il l'exemple à suivre? Lionel Charbonnier, Ludovico Bragnac pour débattre dans ici.
Allez les verts.
À tout de suite.
RMC, 18h-20h, ici c'est Willy.